c'est 9h midi, les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour les GG, pour les Grandes Gueules. Nous sommes vendredi, c'est la der de la semaine et on vous attend plus que jamais au 32-16 pour discuter, pour débattre avec les Grandes Gueules. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous.
Petit exercice obligé.
Bah, toujours.
Kauter Ben Mohamed, s'il vous plaît, président de l'association Marseille Colère, bonjour. Alors, merci de me remettre votre portable dans le petit panier. Monsieur Bruno Poncet-Cheminot, bonjour.
Bonjour.
Votre portable aussi.
Il fait la tête Bruno,
monsieur,
il n'a pas.
Monsieur Mourad Boudjelal, éditeur de bande dessinée, bonjour.
Hier, Mehdi a tripoté son portable pendant toute l'émission.
Oh mais... là, on commence comme ça.
Quel état
d'esprit ? Moi, je voudrais saluer l'équipe des Énervés de Marseille, qui sont des grands fans des Grandes Gueules, et Alima, qui nous regarde de Perpignan avec sa fille, qui est aussi une fan inconditionnelle.
Énervés de Marseille à Perpignan ?
Non, j'ai dit les Énervés
de
Marseille.
Qui sont les Énervés ?
Écoute, ce week-end, je vais à l'Estac, donc un petit village à Marseille, là, et je mange un beignet avec mon fils, et ils me tombent tous dessus parce qu'ils nous reconnaissent, donc Claude, je ne sais plus trop leur prénom. Et donc là, ils me disent, on est l'équipe des Énervés de Marseille, mais ils ne sont pas du tout énervés, c'est très des bonards, en fait. Et ils sont fans depuis la nuit des temps des GG.
On
les salue.
Alors, moi, je vais vous donner matière à vous énerver aujourd'hui dans les GG. À 11h20, les Français se plaignent-ils trop ? Ce sera notre GG 7 et match. À 10h, tiens, on parlera de ce qui se passe chez toi à Marseille avec monsieur le docteur Wichou, médecin des quartiers nord de Marseille, qui ferme le cabinet.
Oui.
Il n'en peut plus. Ouais, c'était le dernier médecin là, de ce quartier. Et il fait partie de ces généralistes qui en ont assez de l'insécurité, qu'il n'y ait pas de suite, il ne se sent pas protégé, donc il met la clé sous la porte. Alors ce qui se passe là, on sait que ça se passe dans d'autres villes. Médecins, venez en parler, venez témoigner au 32-16 à 10h tout à l'heure. En attendant, parlons du débat de la semaine, le débat sur les retraites. Et franchement, le départ à la retraite à 65 ans, est-ce que c'est vraiment, vraiment la cata ? Est-ce que c'est vraiment trop vieux pour partir à la retraite ? 32-16 pour le dire au GG.
RMC, les Grandes Gueules.
Une réforme douce que chante le gouvernement. N'ayez pas la frousse, vous n'êtes plus des enfants. Une retraite douce qui sera pour toi si t'es vieux. Et si sans secousse, t'as survécu de ton mieux.
Les goguettes, c'est 10 camarades de la production qui ont trouvé encore cette parodie.
Donc si la réforme passe, l'âge légal de départ sera fixé à 65 ans dès 2031, ce qui va donc nécessiter de reculer l'âge légal de départ à la retraite de 4 mois par an. Et c'est la génération née en 1961 qui pourrait être la première concernée. Voilà, ça c'est la réforme. J'ai regardé le taux d'emploi des seniors en ce moment. Il a été publié, c'est un rapport de la DARES qui a été publié en avril 2022. En France, le taux d'emploi des 55-64 ans s'est situé à 56%. Donc il y en a quand même 44% entre 55 et 64 ans qui ne travaillent plus. Et c'est une moyenne d'ailleurs qui cache de profondes disparités parce que si on prend les ceux qui ont plus de 60 ans, alors là... Le taux d'emploi des seniors baisse considérablement, puisque entre 60 et 64 ans, on n'est plus que 35% à travailler. Donc ça va être quand même un des soucis de cette réforme. Il va falloir quand même faire travailler les gens davantage si on veut jusqu'à 65 ans. Mais à 65 ans, est-on trop vieux pour travailler ? C'est la question dans un pays qui vieillit, qui c'est vrai qu'on se porte mieux, on vit mieux, on a une espérance de vie qui n'a jamais été aussi forte. Est-ce que on est vraiment vieux à 65 ans ? Peut-on encore travailler ?
Et en moyenne, on part à 63,3 ans.
Au-delà des 62 ans,
voilà,
les gars.
En France. Hein. Donc 32-16 pour le dire au GG, pour le dire aux grandes gueule. Kauter, tu disais, ça dépend du métier.
Mais ça dépend du métier, franchement. Enfin, je veux dire, quand tu es infirmière, quand on doit être vif, quand tu es femme de ménage, quand tu es aide-soignante, que tu dois porter des malades qui sont alités. Enfin, moi, j'ai été alitée. Il faut être en forme pour me porter, pour me tourner, pour me faire ma toilette, etc., etc. Quand tu es dans
surtout
le coma.
Surtout que tu ne sais pas faire.
Et... J'étais inconsciente, donc j'ai été en soins intensifs.
Ils sont obligés de l'endormir pour
c'est
la
ça, c'est ça. Non, mais je suis sérieuse. Il y a des métiers qui sont hyper physiques. Quand tu es sur les chantiers, moi j'ai un énorme chantier. Moi, je regrette de ne pas avoir fait la photo depuis le premier jour. Franchement, c'est hyper physique. Ils travaillent. Ils commencent à 7h du matin, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse 40 degrés, ils sont sur les chantiers quand même. Enfin, moi, je dis que, franchement, il faut l'adapter à la pénibilité des métiers, à la nature des travaux. Quand c'est physique.
Donc,
quand
ça veut dire que pour certains métiers, on peut bosser jusqu'à 65 ans sans problème.
Ben oui, vous pouvez bosser jusqu'à 65 ans sans problème. Non, mais je suis sérieuse. Il y a des métiers qui sont moins pénibles que d'autres, physiquement parlant. Donc, moi, je dis que ça doit être réfléchi de manière pas démagogue, pas partisane, et avoir vraiment la pénibilité des métiers. Les horaires décalés, ça abîme les infirmières, les cheminots. Enfin, il y a plein de personnes qui travaillent en horaire décalé. Les boulangers, bon, encore aussi.
Il y a des journalistes qui travaillent en horaire décalé. Donc, oui, c'est pas si simple.
C'est à 2h du matin ou à 1h du matin.
C'est vrai.
Je l'ai fait pendant 13 ans.
Matinale,
Et regarde dans quel état il est. Il a que 37 ans. Hein.
C'est ça, oui.
Et c'est crevant, effectivement. Quoi. Faut le... Attends, voilà. Pour donner la parole à Bruno Poncet, s'il vous plaît.
Ah, c'est tu as une tablette.
J'ai une tablette. Ça va mieux. Alors il est où? Il est là.
Qu'est-ce qui va se passer?
Voilà, maintenant monsieur Poncet peut parler.
Dès qu'il prendra la parole.
C'est ça, joli gimmick. Non mais ce que Kauter dit, c'est vrai, c'est le sujet aussi de quel métier, mais le vrai problème de ces retraites, c'est l'âge, c'est une condition. Le nombre d'annuités, c'en est une, mais surtout, c'est avec quoi tu pars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, malgré avoir travaillé 35, 42, 45 ans, ils partent avec des retraites qui leur permettent pas de survivre à la retraite. Quand tu pars en retraite, moi, j'ai des collègues qui sont partis après plus de 40 ans de carrière, ils sont partis avec des 960 euros de retraite, des 1100 euros
alors
de retraite.
Alors là, Macron promet garantie 1100 euros.
1100 euros, c'est plus vieux que 1100 euros.
Mais personne n'a dit ça. C'est voilà. Mieux que tes 900 euros que tu viens de
signer. C'est garanti, et puis après, il y a ce que tu as gagné au long de ta vie.
C'est le minimum, c'est pour, une, minimum. Pour une carrière complète. Hein.
Et la plupart des gens qui travaillent au SMIC, ils partent avec 900 euros de retraite quand tu gagnais 1100.
Bah, ça serait 1100 maintenant.
Ouais, 1100, mais 1100, tu vis toujours pas mieux.
J'ai jamais dit ça, je vous dis. Surtout quand j'ai une information après.
Non, mais j'entends.
Mais là ça n'a rien à voir avec le fait de travailler vieux ou pas.
Ouais, mais après, le problème de travailler, c'est que tu l'as dit tout à l'heure. Tu vois, t'as 44% de personnes qui ne travaillent pas. Mais c'est pas de leur choix, souvent. C'est que les entreprises, à partir de 55 ans, te poussent. Parce que, déjà, tu coûtes cher parce que t'as de l'ancienneté. Parce que, des fois, ils pensent peut-être que t'es moins bon parce que t'es vieux. Et puis après, surtout, ils disent, si je prends un gamin qui sort de l'école de 20 ans, il va me coûter nettement moins cher.
Par exemple, toi, en tant que cheminot, tu as fait des horaires décalés aussi. Ouais. Bon. Mais ceux qui sont, dans les autres services de la SNCF qui sont dans les bureaux.
On fait pas des horaires
décalés. Peut-être que eux peuvent partir à 65 ans. Pas ceux qui sont en horaires décalés. Ceux qui font du 8h, 17h.
C'est déjà le cas. Regarde-moi aujourd'hui. Bon, si moi, demain, je veux partir avec une retraite à taux plein, il faut que je parte à 65 ans. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc après, ça dépendra, moi, comment je serai à plus de 60 ans. Et si ce que je toucherai à la retraite me suffira, je partirai peut-être plus tôt. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout est fait. Parce que quoi qu'il arrive, que tu sois cheminot ou n'importe quel métier, aujourd'hui, ton truc, c'est que tu dois partir à 42 annuités. Et c'est comme ça.
Ouais.
Et les 42 annuités, pour les avoir...
bientôt.
Et comme tu rentres sur le marché du travail de plus en plus tard, moi, je suis rentré... j'ai fait travailler l'été, mais je suis rentré assez tard sur le marché du travail, j'avais 23 ans. Et tu vois, tu montes et t'arrives à 65
ans. Mais est-ce que c'est un problème en fait? C'est ça, je vois pas.
Ça dépend le métier que tu fais.
J'ai bien compris ça. Il y a des métiers très bas. Tous les métiers ne sont pas pénibles, tous les métiers ne sont pas physiques. D'ailleurs, il y en a de moins en moins des métiers physiques parce qu'on est dans des métiers sédentaires, etc. de service. Est-ce que c'est vraiment un problème?
C'est un problème parce que plus tu pars tard, moins tu fais rentrer les jeunes dans le monde du travail.
Mais non, ça marche pas comme ça. Mais le problème, c'est que tu vis jusqu'à 90 ans. Donc pendant 30 ans, qui prend en charge ta vie?
Tu vis jusqu'à 90 ans quand t'as fait des métiers.
Les générations à venir vont vivre majoritairement, effectivement.
Il y a une enquête qui est sortie dernièrement qui explique que ceux qui font des métiers pénibles
ne vivent pas jusqu'à
25% ne voient pas leur retraite.
Tout le monde n'est pas sur les chantiers et tout le monde ne fait pas les horaires décalés. Majoritairement, les gens ne sont ni dans les chantiers ni dans les horaires décalés. Et pour ces gens-là, si tu vis jusqu'à 90 ans, tu peux pas dire dans une société, écoutez les gars, vous commencez à 25 ans et vous arrêtez à 60 balais et ensuite pendant 30 ans vous travaillez pas. C'est-à-dire ça ne marche pas. C'est plus un système par répartition, système.
Mais moi je suis d'accord avec toi. Si le gouvernement ne faisait pas une uniformisation de sa retraite, à chaque fois il te dit, il te fait une réforme des retraites pour que tout le monde soit pareil. Mais
il y a 40 régimes différents.
Oui, mais dans 40 régimes différents, il y a quand même des raisons. Tu ne peux pas considérer quelqu'un qui travaille à l'hôpital comme quelqu'un qui,
parce qu'à l'hôpital, il y en a des gens qui font des métiers pénibles. Il y a le comptable, il peut
bosser jusqu'à 65 ans. Oui, mais la pénibilité aujourd'hui, elle n'est pas assez reconnue. Aujourd'hui, la pénibilité, comme le gouvernement l'entend,
c'est
pour ça que c'est compliqué.
C'est compliqué, c'est pour ça qu'il ne faut pas de démagogie dans ça. C'est la vie des gens, tu vois, on ne parle pas de. Voilà, et c'est la vie des gens après avoir travaillé toute leur vie. Et je suis assez d'accord avec lui sur le fait que moi, je m'occupe beaucoup de retraités pauvres qui n'ont pas de quoi se nourrir, en fait, tu vois, qui on amène de la nourriture chez eux, etc. via le CCAS ou via des dons qu'on récolte. Donc il y a une réalité, c'est qu'il y a des travailleurs pauvres, mais il y a aussi des retraités pauvres, et que c'est une question qui est tellement importante parce que justement on vit de plus en plus vieux, même si moi j'ai pas beaucoup de personnes qui meurent à 90 ans autour de moi parce que c'est des métiers pénibles dont je m'occupe.
Mais là on fait une réforme pour une nouvelle génération, celles qui vont vivre.
Oui, d'accord.
Tard.
Mais il faut qu'ils travaillent, ces gens. Ils travaillent pas 23 ans. Alors, il y a personne qui sont.
Voyons ce qu'on dit Mourad Djellal.
Moi d'abord.
Il vient de se réveiller, Mourad. Là,
c'est... on a chacun notre truc, c'est bien.
C'est super. Je pense que d'abord, il y a la pénibilité morale dont on ne parle pas aussi, parce que vous êtes dans une espèce de caricature. Je veux dire, je vous donne un exemple. Le mec qui a sa petite boutique avec ses charges fixes et qui est tout le matin attend le client qui ne vient pas. et qui se demande comment il va faire pour payer son loyer, pour payer son, s'il a une ou deux personnes dans sa boutique, comment il va faire pour payer ses fournisseurs et ses charges sociales, c'est de la pénibilité, je veux dire. C'est une vraie pénibilité morale qui existe aussi, dont il faut tenir compte. Mais pour le reste, moi, je suis un peu pour la liberté. Je suis très surpris par le fait que on ne pense qu'à la retraite. Moi, je voudrais d'abord que le gouvernement s'occupe de faire en sorte que jusqu'à la retraite, ça se passe bien.
Oui,
ça serait step by step. Et l'impression, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a déporté tout le débat sur le fait qu'on vive vieux en bonne santé avec un peu d'argent. Alors qu'avant, il y a de vrais problèmes à régler avant qu'on arrive à la retraite. Ensuite, c'est un choix personnel. Si quelqu'un, il faudrait qu'on soit à la carte. C'est-à-dire que d'abord, ce que je trouve inadmissible, c'est que s'appauvrir quand on prend la retraite. À minima, on devrait à peu près gagner la même chose. Ce qui, pour notre système économique, serait très positif, puisque l'angoisse de la retraite et de la pauvreté à la retraite aujourd'hui fait qu'il y a un taux d'épargne dans ce pays qui est très important et que cet argent-là ne va pas à la consommation, ne tourne pas parce qu'on thésaurise par la crainte du lendemain et de la retraite. La retraite est une terreur pour beaucoup de gens en se disant c'est la retraite, c'est la paupérisation. C'est la première chose. Ensuite, si on a envie de bosser après 65 ans, je veux dire, pourquoi on ne pourrait pas?
Ah, mais bien sûr.
C'est un choix personnel, de légiférer là-dessus, je veux dire.
Mais dans la fonction publique, c'est plafonné, t'as pas le droit d'aller au-delà de 65.
Oui, mais si quelqu'un.
On a mis un âge.
Aujourd'hui, je pense qu'un homme de 60 ans d'aujourd'hui est l'équivalent d'un homme de 50 ans, de 50 ans d'il y a 20 ans, quoi. Voilà, parce qu'on est en meilleure santé, j'espère pour la majorité, et qu'on a une espérance de vie beaucoup plus.
C'est-à-dire, toi, tu ne mettrais pas d'âge pivot.
Non, ce que je n'aime pas, c'est que notre vie est dictée par le travail. Le fait d'être en vie, c'est une chose, et on donne des étapes. Il y a une étape, tu travailles, une étape, tu t'arrêtes de travailler, et là, t'attends la mort. Si on n'a pas envie de rentrer dans ce schéma, c'est un problème personnel. Dire, moi, ma vie, elle n'est pas conçue comme ça. Voilà. Et donc, on impose à chacun un schéma de vie qui est école, travail, retraite, attente de la mort. Bon, on peut fonctionner différemment.
Oui, mais si on fonctionne différemment, on sait plus système par répartition, puisqu'on fait un système de solidarité où c'est les gens qui travaillent qui payent pour ceux qui ne travaillent pas.
Le système est biaisé depuis le début pour une raison simple, c'est qu'on calcule en annuité. Il faut calculer en montant. Voilà.
Il faut bien le financer.
Oui, mais il faut calculer. Il faut que chacun ait cotisé un montant précis à déterminer de façon à ce qu'il ait droit à une retraite. Ouais. On peut décider dans sa vie de le faire en, quand on est par exemple en bonne santé, jeune, de dire tiens moi là je cotise énormément pour préparer ma retraite.
C'est toi qui décides.
Comme par exemple
dans un autre domaine
quand tu as 25 ans tu peux décider d'avoir deux boulots ou trois boulots en disant
je suis
très actif, je suis en pleine forme, je thésaurise un maximum pour avoir un toit sur la tête et tout.
Plus bosser
dans 10 ou 15 ans je baisse de rythme parce que je me serais mis un actif de côté. C'est un choix personnel, mais on a l'impression qu'on nous trace notre vie. Voilà, on est assisté complètement.
Que voulait Macron la première
fois. On va voir ce qu'en dit David, parce que David, il nous écoute de Seine-et-Marne. Bonjour David.
Bonjour.
Je ne sais pas si vous nous écoutez de chez vous, si vous êtes dans votre camion, parce que vous êtes conducteur routier.
Je suis sur la route en Bretagne.
Ah, vous êtes sur la route du côté de
la Bretagne.
Il pleut, j'imagine. Voilà. D'accord. Vous faites quoi comme type de transport, David?
Principalement du convoi exceptionnel.
D'accord.
Donc, beaucoup de ports de charges lourdes, beaucoup d'horaires décalés, jour, nuit, un peu les deux. Des semaines qui tournent entre 50 et 60 heures par semaine.
Pour combien par mois?
Juste le salaire net sans les frais, environ 2500 euros.
D'accord. Alors, David.
L'équivalent de 220 à 240 heures mensuelles.
Vous avez 42 ans. Est-ce que vous voyez aller jusqu'à 65?
Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé à travailler à 18 ans. 65, ça me ferait 47 ans.
Oui.
Mmh. 47 ans de travail. En bossant 200 heures à 250 heures, même parfois par mois, depuis 47 ans, dans quel état j'y arrive à la retraite? Je pense que j'ai aussi le droit de. Je pense que j'ai connu qu'on cotise, qu'on fait des heures. Donc, au bout d'un moment, suivant les métiers, la pénibilité est là. Un maçon, un peintre, un carreleur, comment il fait? Quelqu'un qui travaille à l'usine avec des gestes répétitifs, avec des petits salaires. Parce que par rapport à la retraite par capitalisation, cotiser plus quand on peut, en cumulant plusieurs emplois, comme j'ai entendu dire votre intervenant, comment c'est possible? On a le droit de vivre à côté aussi, il faut s'occuper de ses enfants.
Bien sûr. Vous avez des enfants? Combien vous avez d'enfants?
J'ai quatre enfants, deux grands et deux petits.
D'accord.
On n'a pas la gamme, mais faut s'occuper de ses enfants. Il y a des devoirs, il y a aussi des choses à faire autres que travailler.
Ouais. Mais cette pénibilité, elle sera prise en compte, hein, David, hein, cette pénibilité en tant que conducteur.
Moi, déjà, j'ai déjà reçu des courriers de la
Caisse
pour faire une simulation. Et en ayant commencé à travailler à 18 ans, on me propose de m'arrêter à 61 ans et 4 mois pour un certain montant. On me propose d'aller à 62 ans, donc travailler 8 mois de plus pour 40 euros de plus. Et si je me sens bien, je vois encore la pêche, alors que j'ai fait 240 heures, faites le calcul, 11 mois par an pendant 47 ans, d'accord. On propose 400 euros en plus. You, c'est l'Amérique. Non, mais sérieusement, on se moque de qui? On se moque de qui, là? Et quand on a des métiers pénibles, dans quel état on arrive à...
Est-ce que vous avez envisagé aussi de faire évoluer?
Quand j'entends votre intervenant dire, les hommes de 60 ans maintenant sont comme les hommes de 50 ans il y a 20 ou 30 ans, je suis désolé, allez voir les gars sur les chantiers. Allez voir dans l'état qu'ils sont. Allez voir les plaquistes, allez voir tous ces métiers, toutes les filles à l'usine, tous ces métiers sous-payés. Enfin, au bout d'un moment, il faut être réaliste. Des gens qui sont au bureau, à des postes administratifs, tout ça, oui, ils peuvent, ils n'ont pas de conviviaux.
Mais David, justement, est-ce que vous envisagez de changer de métier ou de faire évoluer votre métier? Parce que je comprends, être chauffeur jusqu'à 65 ans, ça me paraît compliqué.
Non, mais j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, en plus je suis vraiment spécialisé.
Oui, mais aujourd'hui,
moi, l'évolution possible, c'est passer dans les bureaux, admettons, gérer des gars, mais me reconvertir dans quoi, après, à côté...
L'évolution, c'est gérer les chauffeurs, quoi.
C'est pas le même salaire. En tant qu'éducateur sportif en aviron, mais éducateur sportif en aviron, j'ai fait la formation, c'est 1400 euros par mois.
Mais oui, vous avez déjà pensé à ça. Vous y avez pensé, quand même.
Donc, vous avez quand même envisagé d'être maître de votre destin, quand même.
Bien sûr, mais après, il y a aussi une réalité financière. Quand on a un crédit, des enfants, une pension, l'électricité, le carburant...
À 40 ans, on paye tout.
1400 balles. Comment est-ce qu'on fait en 2022 avec 1400 euros par mois?
Vous avez raison. David, on écoute votre cas particulier, je suis
d'accord avec vous, mais... c'est sûr qu'éventuellement, un manutentionnaire à 65 ans, ça peut être choquant. Quoi. Mais il y a une réalité économique qui est liée au salaire. Si vous travaillez dans une entreprise, je veux dire, il y a des salaires qui sont établis par rapport à un marché. Je veux dire, il est évident que demain, votre patron, il peut pas doubler votre salaire. Il faudrait qu'il double son marché, ce qui est pas possible. Donc, dans cette réalité économique, aujourd'hui, le salaire qui vous est attribué, c'est celui-là. Et c'est à vous de composer. Il n'y a pas d'argent magique, malheureusement. Et juste pour terminer, et ensuite, je suis d'accord avec vous sur la retraite, avoir plus... Il faut juste me dire comment on le finance.
David, merci d'avoir été avec nous.
On cotise tous les mois, je pense, pour financer.
Mais le problème, c'est qu'on ne cotise pas assez.
Moi, je travaille pour les gens qui sont à la retraite.
On n'est pas assez nombreux à cotiser.
Et ben dans ce cas-là, qu'ils arrêtent de ponctionner les entreprises comme des dingues, que les gens puissent capitaliser sur des augmentes de 600 balles. Déjà, les gens, ils vont consommer.
Mais comment on les augmente de 600 balles?
Et ben on baisse les charges, donc c'est là l'état d'air.
C'est un débat sur lequel
chaque fois Mohamed Djallo propose de baisser les charges qui pèsent sur le travail pour pouvoir
de les reporter sur la consommation.
Merci David, je vous souhaite une bonne route, à bientôt pour de nouvelles discussions dans les GG, dans les grandes gueules. On continue la discussion avec Kaouter Ben Mohamed, avec Bruno Poncé et avec Mourad Boudjelal. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules.
RMC, 9h midi, les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Son vieux par-dessus râpé.
Oh putain!
Il s'en allait l'hiver, l'été.
Je sais pas
le petit matin.
Avant ma naissance, c'est sûr.
Ouais, ça, je te comprends.
Ah, moi, 72.
Ça se voit quelque chose comme ça.
72, donc c'était avant.
Non. Dimanche, dans ces eaux-là. Vieux.
Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner.
C'est vrai que c'est une émission moderne quand même.
L'autre 74. T'avais 2 ans.
C'est une culture
populaire, Bruno Poncé.
Oui, enfin, l'autre fois, Sardou. Non, il n'y a pas que ça dans la vie, mais c'est Sardou maintenant que Daniel Guichard. C'est vrai que là, on est vraiment. Mais tu me diras, on se rapproche un peu des.
Est-ce que dans ton vieux par-dessus râpé à 65 ans, tu bosseras Bruno Poncé?
J'espère pas.
Bah déjà, avant, dans son vieux sweatshirt râpé, avec ses Jordan usés.
Ouais, j'espère avoir le choix de choisir ma vie, comme disait Mourad. Si je peux choisir, je préfère arrêter de bosser le plus vite possible.
Mmh. Bah, t'as pas songé à une reconversion, justement, toi?
Bah si, je suis en plein dedans d'ailleurs, moi. Parce que j'ai fait 6 ans de délégué syndical à plein temps, donc.
Ça doit être usant. Hein.
Ah bah c'est usant, ouais. Surtout que c'est du 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Hein. Puis se taper des patrons comme toi, c'est pas simple non plus.
Sérieusement, pour faire quoi?
Bah je sais pas, tu vois, parce qu'à un moment donné, moi
si
je.
Si tu fais une reconversion, t'as quand même une idée.
Mais disons que le truc, c'est que moi, je vais plus aller dans la production, parce que moi, la production des trains, j'ai plus envie, et puis surtout, j'ai plus le caractère à ça. T'sais, moi, un client qui t'appelle pour t'engueuler parce que son train a un quart d'heure de retard, je peine à l'encaisser, hein. J'ai un peu vu des trucs dans ma vie qui me paraissent plus graves que ça, donc je me dis. Et donc, là, je voudrais travailler dans les RH, puis tu sais, pour aider les gens, travailler peut-être sur les travailleurs handicapés, sur le recrutement, enfin tu vois, sur un truc qui permettrait d'avoir une vraie incidence sur le quotidien des gens. Mais après, c'est long.
Mais rester à la SNCF,
oui,
d'accord. Ah oui, c'est pour savoir ça.
On ne quitte jamais la SNCF.
Non, mais c'est pour savoir si je garde
un fauteuil pour s'asseoir sur une chaise.
Ah non, mais moi surtout, c'est que j'ai un attachement viscéral à cette entreprise, ça là-dessus.
C'est pour savoir si on garde le jingle, c'est pour ça.
Ah bah, tu vas le garder quelques années, j'espère en tout cas.
Attends, on va écouter Christelle qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Bienvenue, bonjour, ma chère Christelle. Que faites-vous dans la vie, Christelle?
Alors, je suis coiffeuse.
D'accord. Ah, donc, debout, voilà. Tout le temps.
Voilà, tout à
donc,
fait.
Donc, 65 ans pour vous.
Ça va être compliqué. Ah, voilà, à l'heure actuelle, donc, j'ai 44 ans. Et voilà, déjà des tendinites au niveau des coudes, bien au sûr. Niveau des poignets, le canal carpien qui est foutu, voilà, des problèmes de dos assez importants, ainsi que les jambes. Donc je vous cache pas que d'aller jusqu'à 65 ans, je pense que ça me paraît très compliqué pour mon cas en tout cas.
C'est-à-dire que vous projetez pas faisant le même métier jusqu'à 65 ans, donc il va falloir trouver une solution.
C'est ça, exactement. Donc forcément, à 44 ans, on se pose beaucoup de questions. Mmh. Je me demande si je dois continuer dans ce métier ou éventuellement faire une reconversion professionnelle. Mmh.
Vous avez des idées? Des envies?
Alors pas du tout. Moi, c'est un métier que j'ai choisi par passion. C'est pas voilà. Donc je vous cache pas que j'ai pas du tout envie d'arrêter ce que je fais. Sauf que si effectivement cette réforme passe, je vous avoue que il va falloir que j'y pense. Parce que je ne vais pas pouvoir continuer dans ce métier, sachant que je suis déjà très abîmée au niveau de mon corps. Donc voilà.
Vous êtes employée, vous ne gérez pas votre salon?
Du tout. Alors moi, je suis indépendante. D'accord. Ça fait une dizaine d'années voilà, que je suis indépendante.
Faites à la maison, à la maison, à domicile?
Alors, je fais du domicile actuellement. J'ai eu deux salons à mon effectif. Et actuellement, je fais du domicile. Voilà. D'accord. Donc, bien sûr, cela se cumule aussi à la route. Tous les jours, prendre son véhicule, conduire, charger, décharger le véhicule. Donc, le matériel pour aller coiffer. J'interviens également dans les EHPAD, donc c'est pas toujours facile. On prend des positions qui ne sont pas toujours adéquates.
Bien sûr.
Donc, voilà.
C'est combien, combien c'est une coupe à domicile d'ailleurs, Christelle, en moyenne?
Ça dépend des régions, mais on est entre 30 et 40 euros. Enfin, ça dépend vraiment de la région. Après, vous doutez bien que pour se verser un salaire, il faut quand même beaucoup travailler. On ne compte pas ses heures.
Enfin, combien vous en faites par jour, justement, des coupes?
Ça peut varier, mais pour pouvoir en vivre, il faut faire entre 8 à 10 personnes environ par jour.
Minimum.
Pour pouvoir, une fois les charges payées, vous doutez bien que, toutes charges comprises, je parle vraiment des charges sociales, mais aussi des charges du carburant, l'entretien du véhicule, puisque pour ma part, je suis à domicile, donc il y a aussi ces charges-là qui se cumulent. Donc, effectivement, il faut quand même énormément travailler.
Donc, du coup, ça vous laisse, attendez, juste encore une dernière question, ça vous laisse combien?
T'as envie qu'elle vienne chez toi, c'est ça?
Non, c'est pour penser.
Est-ce que vous avez envie de couper les cheveux de riche?
J'ai très beaux cheveux. Mais non, mais je voulais savoir, Christelle, du coup, ça vous laisse combien?
Il en est très content.
Combien par mois? Oui, je mets tout le temps la main.
Alors, c'est aléatoire parce que, par rapport à la conjoncture actuelle, les gens sont quand même sur leur budget. Donc, il y a eu quand même une baisse, je pense, pour tout le monde, pour tous ces métiers qui touchent le domaine de la beauté.
Donc, les cheveux, c'est.
Voilà, les esthéticiennes, je dirais que c'est même encore pire. Mais la coiffure, c'est quand même.
C'est des dépenses qu'on coupe.
Donc, par mois, ça vous laisse quoi? 2000 euros à peu près par mois net?
Non, en net, beaucoup moins. Toutes mes charges déduites, je vais être à entre 1300 et 1600 euros net. Sachant que les cotisations sociales à l'URSSAF en tant qu'auto-entreprise
sont faibles.
Et ça m'inquiète d'autant plus puisque je ne sais pas du tout sur quoi sera basée ma retraite. Voilà. Donc c'est très inquiétant en fait. Donc par rapport à mon profil, mes questions sont là, c'est-à-dire qu'à 65 ans, d'accord, mais je risque d'aller jusqu'à 65 ans déjà.
Et avec quel montant de retraite ensuite?
À quel montant de retraite? Comment ça sera calculé, sachant que dans ces métiers-là, on commence en général entre 16 et 17 ans.
Vous avez commencé très tôt.
On sera en carrière longue, mais ce qui m'inquiète en fait.
Il y a déjà des dispositifs pour les carrières longues de la précédente réforme, Sarkozy.
Moi, je vais vous dire franchement, et j'en parle avec toutes mes clientes et mes clients, cette réforme, nous n'avons, je trouve, aucun... ce n'est pas assez précis pour tout le monde. C'est-à-dire que la réforme va passer, mais on ne connaît pas le contenu. Et c'est ce qui nous inquiète. Donc c'est pas qu'on est contre ou qu'on est pour, c'est qu'on aimerait
l'expliquer,
quand même
voilà. C'est pas une réforme définitive, hein, d'ici à ce que vous ayez l'âge de la retraite, il y en aura encore une dizaine.
Vas-y, comment on fait une réforme?
Moi j'ai une question, parce que quand on est dans une entreprise nationale comme celle de Bruno, effectivement trouver un autre poste dans une entreprise, c'est très facile. Mais quand on a un métier comme vous et comme le monsieur d'avant qui était chauffeur, vous commencez vachement tôt, entre 16 et 18 ans en général. Vous avez fait ça toute votre vie. Comment on se reconvertit à peu près entre 50 et 60 ans? Comment on s'invente un nouveau métier? Comment on se forme à cet âge-là? Et comment on peut être engagé par des professionnels, par des patrons, à 50 ans, 60 ans, quand ils privilégient toujours les personnes sans...
Ce genre de question, c'est déjà y renoncer.
Non, non, c'est une vraie question. C'est pas y renoncer, Mourad. C'est-à-dire que quand tu as un métier que tu as fait toute ta vie et qui a des conséquences physiques à ces métiers, les chauffeurs ont des soucis de dos, elle a des soucis d'arthrose, voilà, plein de soucis déjà médicaux, comment tu te reconvertis et comment tu es vendable et achetable, entre guillemets, excuse-moi, employable.
Bankable.
Comment?
Bankable.
Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est la vérité. Tu crois que les mecs qui ont des entreprises, ils veulent embaucher quelqu'un qui est abîmé à 50 ans ou 60 ans et qui ne maîtrise pas encore le métier? Ils vont prendre un jeune qui est plein de pêche, etc., etc. Donc c'est facile de dire... On se reconvertit, mais à quel prix et pourquoi? Et est-ce que derrière, on va être employé par les employeurs?
Le marché du travail, ce n'est pas que être embauché.
Comment?
Le marché du travail, ce n'est pas que être embauché. Comme l'a dit notre président, je veux dire, on peut chercher un patron ou on peut chercher un client.
Et tenter soi-même une aventure.
Parce qu'elle a
fait Christelle. Ça toute sa carrière.
Peut-être qu'elle repartira sur autre chose. Elle a déjà fait une première aventure. Moi, j'ai énormément de respect pour tous les gens qui effectivement cherchent un client et se prennent en main. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de respect pour les autres. Mais on est responsable de son destin.
Oui, mais pas tout le monde n'est en capacité d'ouvrir une entreprise et de gérer une entreprise.
C'est déjà y renoncer aussi.
Pas mais quand tu parles avec
mais on n'a pas tous les mêmes compétences. Moi, je ne suis pas capable de conduire un camion.
Tout le monde en est capable.
Tu parles avec des livreurs, des chauffeurs VTC. Là, la dame qui était
chauffeur,
tu vois très bien que la plupart peinent à vivre de leur métier. Parce que au-delà des charges, au-delà de tout ça, c'est qu'à un moment donné, enfin, moi, tous ceux que je connais qui travaillent via des plateformes, ils te le disent. Ils donnent tellement à la plateforme qu'en fin de compte, ce qui leur reste à la fin, c'est très peu. Et moi, je me rappelle quand je venais chez vous, il y a 4-5 ans que j'étais tout le temps interrogé sur nos grèves à l'ancienne. Et que
les gens. Je crois qu'il n'y en a plus des grèves.
Non, il n'y en aura plus jamais.
Il est très arrivé.
À chaque fois, il me demandait, il me disait, mais je peux rentrer à SNCF, Ben, j'y écoute, vas-y.
Est-ce que je peux me planquer à la SNCF?
Non, c'est pas ça, le mec voulait bosser. Non, si vous voulez se planquer, il ferait des dessins de BD, c'est facile.
Mais bien sûr
que si.
Quand il y a des mecs qui veulent rentrer,
c'est pour vous, c'est une planque.
Non, pas du tout. C'est juste l'avantage d'avoir un contrat, d'être sûr d'être payé au 30 du mois. C'est surtout ça.
Moi, la SNCF, je suis rentré que pour avoir.
SNCF, c'est mon premier CDI. Moi, j'avais 28 ans. C'est la première fois de ma vie que j'étais sûr d'être payé. Parce qu'avant, je travaillais dans des petites boîtes où c'était toujours la galère, où tu te battais. Tu te battais pour ton patron.
Par exemple, toi, tu as des passions. Tu as une passion, c'est la musique. Tu as la mécanique aussi, tu es motard. Pourquoi tu ne changerais pas? Tu ne te lancerais pas avec un copain dans un atelier où tu as aussi les baskets comme passion. Je vois, moi, il y a plein de jeunes qui ouvrent des trucs de customisation des baskets.
Tu viens de le dire, Alain. Tu vois, par exemple, les baskets. Moi, je n'ai pas le profil du vendeur de sneakers. Moi, j'ai 50 piges. Qu'est-ce que tu veux que le mec, les gamins, ce qu'ils voient, ils veulent faire?
Si tu connais ton produit, ton truc.
Moi, mon rêve, vraiment mon rêve, moi, ça serait de pouvoir ouvrir un magasin de disques, de vinyle, et puis à côté, avec un client. Sauf que si je fais ça, il faut vraiment qu'à côté, je gagne de l'argent parce que je sais que j'en gagnerai pas avec ça. Mais ça serait ma passion, je le ferais. Parce que ça marche pas. Moi, j'ai des potes qui l'ont fait, ça marche pas.
Vendant des vinyles, tu gagnes pas non plus.
Non, ou alors faut être dans des niches. Et là, les niches, tu les vends très cher et t'as ta clientèle et ta clientèle. Moi, j'ai un revendeur dans ma ville à Bourges, on discute souvent et tout. J'achète des vinyles chez lui, des vinyles d'occasion. On discute et tu sais qu'il fait d'autres trucs à côté parce qu'ils ont il n'y arriverait pas, tu vois. Et c'est ça le truc.
Le vrai sujet, c'est pas les retraites. Le vrai sujet, c'est
avant la retraite.
Parce que si tu as une retraite à 1000 balles ou à 900 balles, effectivement, sans qu'on te le demande, tu vas continuer à travailler si ta santé et si ton corps te le permettent, parce que tu peux pas vivre décemment de ta retraite, comme aujourd'hui, tu ne peux pas vivre décemment de ton salaire. Et c'est ça le sujet. J'écoutais Thomas hier, qui était invité dans une émission.
Thomas Porcher,
effectivement. Moi, je ne suis pas économiste, mais j'écoute ceux qui le sont.
Il vient de sortir un livre.
Exactement. Et donc, il disait que l'inflation était à 6 et que les salaires ont augmenté de 3. Et que, t'as un décalage.
Quand on sait comment il calcule l'inflation, ça fait rigoler, elle est bien.
Oui, mais il y a un décalage.
Bien plus augmenté que de 6%.
Exactement. Et qu'on le veuille ou non, les gens qui travaillent ne peuvent pas payer leurs factures et avoir le ciné, le ci, le ça.
Après, pour modérer un peu mes propos. À l'étranger, il m'est arrivé dans des restaurants d'avoir des serveurs, par exemple, qui avaient plus de 70 ans. C'est
violent, hein.
C'est traumatisant, quoi.
On va écouter.
C'est vraiment choquant parce qu'on se dit,
il a pas à être là, quoi. Voilà.
On va aller du côté
du Pas-de-Calais retrouver Jacques en direct. Jacques qui est gestionnaire de patrimoine. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Bonjour. Attention Jacques, si vous avez le retour son, baissez-le, qu'on puisse vous entendre correctement. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que 65 ans, c'est trop vieux?
Alors, je vais dire par obligation, non.
Vous avez quel âge, vous?
Moi, j'ai 59 ans. Mmh. Alors, si je peux juste m'expliquer, comme ça, vous allez comprendre mon cheminement. Je vais essayer d'être rapide. J'étais embauché à 52 ans dans les assurances.
Oui.
À la base, j'étais ingénieur commercial chez Page Jaune, qui a rien à voir dans la publicité. C'est pour revenir à ce que disait Morad, et je suis à 200% dans ce qu'il dit. En fait, je me suis formé à 52 ans, j'ai passé une licence d'assurance, je suis rentré dans cette société. Cette société, j'y ai fait 4 ans et demi. On m'a confié 400 000 euros de portefeuille. En 4 ans et demi, je l'ai passé à 4 millions. La directrice générale a vu que j'étais un très bon élément. Elle a décidé de me faire passer inspecteur. Sauf que, malédiction, elle me dit cette chose du mercredi, et du lundi, on m'appelle, elle est décédée d'une crise cardiaque.
Il n'y a pas de lien de cause à effet.
Alors, si, mais je vais expliquer. Le lien de cause à effet, c'est qu'en fait, j'avais au-dessus de moi un inspecteur régional jeune, qui lui, en 13 ans, était de passer de 400 000 euros à 430 000 euros de portefeuille. Comme son père était administrateur, on a tout fait pour me virer, tout simplement parce qu'il se disait, le vieux va prendre la place du jeune.
Ah oui.
Donc, je termine. Donc, je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi à 57 ans. Je m'installe. Alors, j'ai envoyé des centaines et des centaines de CV. Jamais de réponse. Ou si, quand j'avais des réponses et j'étais face au directeur général, on me disait, monsieur, notre problème, c'est que vous en savez beaucoup plus que la moitié ou la majeure partie de nos inspecteurs. Donc, ça va être compliqué pour nous. Donc, on ne me prenait pas. Donc, du coup, j'ai décidé de devenir indépendant. J'ai monté une SASU, j'ai monté en personne morale, j'ai monté un poste d'agent commercial en personne physique. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, je me suis installé en 2020, en plein Covid. Le quoi qu'il en coûte, on n'a touché que dalle.
Zéro.
Que dalle, parce qu'on n'avait pas de domaine moins 1, domaine moins 2. Alors, je vais aussi dire des aberrations. Puisque je fais partie de clubs d'entreprise aujourd'hui, j'ai des collègues, plombiers ou autres, qui n'ont jamais été touchés par le Covid. Leurs banquiers leur ont dit, mais si, demandez l'aide. Ils ont demandé l'aide et ils ont dit, vous verrez, en plus ils étaient déjà au courant, vous verrez, ils vont vous demander de rembourser ça à la cinglinglin. Donc aujourd'hui, on apprend que ça va être repoussé à 10 ans. Et ils ont eu des sommes de 120 000 euros qu'ils ont placées sur des PEA d'activité. Morad sait ce que c'est. Ouais. Et les PEA d'activité, on peut les débloquer au bout de 5 ans. C'est comme un PEP sans charge. C'est ça que ça a donné le Covid. Alors que les gens comme moi, alors pourquoi je vous dis,
il y a eu des abus.
Voilà. Et pourquoi je vous dis, ça ne dérange pas de travailler jusqu'à
soi. Le problème des indépendants, il n'est pas que lié au Covid.
Alors finalement,
dans le monde réel, les indépendants, c'est les moins ça vous tire.
Pourquoi 65 ans? Alors ça vous gêne pas pour conclure?
Parce que moi, j'ai eu comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'étais ingénieur commercial, j'envisageais d'avoir un niveau de retraite assez satisfaisant, puisque je cotisais à l'époque à la tranche C de la sécurité sociale, parce que ça, il faut le savoir aussi, que quand on est commercial et qu'on gagne bien sa vie, moi, à l'époque, je gagnais 10 000 euros brut, la sécurité sociale, la tranche C, me prenait 2 600 euros, plus 15 000 euros d'impôts.
Donc là, maintenant, en fait, il faut que vous continuiez de travailler pour pouvoir récupérer ce que vous avez perdu. Attendez, Jacques, c'est avec cet exemple qui montre une fois de plus la disparité des situations individuelles. C'est avec vous qu'on va terminer. Jacques, je vous remercie de cet exemple, de nous avoir raconté aussi la petite entourloupe, parce que c'est une entourloupe, il n'y a pas d'autre mot qu'on fait certains au moment du Covid. Jacques,
la confrontation du monde réel avec les énarques. C'est profiter
du système.
Trop généreux, on l'avait dit. Le quoi qu'il en coûte, c'était nécessaire, sauf qu'on a distribué de l'argent à des gens qui n'avaient pas forcément besoin.
65 ans, est-ce que c'est trop vieux? On regarde vite la consultation. La question qu'on vous a posée, c'est quand même un oui massif à 76 quasiment. 76% pour les 1500 personnes.
Envoyer le résultat à Monsieur Macron.
Qui ont écouté. Allez, dans un instant, on s'en fout pas avec le camarade Louis Gerbier et les grandes gueules. Ça continue, on dirait jusqu'à midi.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story, les grandes gueules, c'est tous les jours, c'est en direct de 9h à midi. Pour ceux qui sont fans de foot, ceux qui attendent avec impatience la Coupe du Monde, si vous avez un rêve d'assister à un match de Coupe du Monde, on peut le réaliser pour vous ce rêve, les amis.
Tunisie-France.
Et oui, Tunisie-France en plus, c'est un match qui te tient à cœur, ma chère Kaouter Ben Mohamed. C'est le 30 novembre, et si vous voulez gagner ce match, il suffit d'envoyer... RMC par SMS au 732-16, RMC par SMS au 732-16. Et c'est un tirage au sort, aujourd'hui d'ailleurs, pour gagner.
C'est le grand jour.
Vous gagnez l'aller-retour, l'hôtel, les places pour deux personnes.
Et surtout, l'after. Vous allez passer un bon moment avec Jérôme Roten, Jeannot Séguier et tous nos petits camarades des sports qui sont sur place.
Moi, je veux bien accompagner le gagnant.
Si vous êtes en couple homosexuel ou si vous n'êtes pas en couple du tout et que vous vivez avec quelqu'un sans être marié, bien sûr, vous ne pouvez pas participer au jeu puisque ça se passe au Qatar.
Merci Morad pour cette précision. T'as pas le...
Bah non, c'est pas une mauvaise blague, c'est pas une blague, pour le coup. Pas une blague, malheureusement, quoi. Voilà. Donc, moi, je vous conseille de pas jouer si vous êtes dans ce cas.
Mais il semblerait qu'ils vont être moins regardants pendant la Coupe du Monde.
Les moyens. Mais ça marche une fois sur deux, en plus.
Vous jouez. Chez regardants.
Vous jouez, vous gagnez.
Non, pas du tout, ouais.
Mourad Boudjelal, Kaouter Ben Mohamed, Bruno Poncé sont nos grandes gueules aujourd'hui. On y va pour le on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Mon cher Louis Gerbier, bonjour.
Bonjour à vous. Alors, la natalité en France. Les naissances sont reparties à la hausse en 2021. Une première depuis 2015. On s'en fout pas, Mourad.
M'en fous.
Kaouter.
Moi aussi, c'est l'effet Covid, ça.
Et Bruno.
Je m'en fous aussi.
Allez hop, on zappe, on s'en fout.
On continue.
Et on va parler d'une histoire assez folle. Une mythomane se fait passer pour une prof, une mythomane maladive, diagnostiquée schizophrène depuis 10 ans. Elle est devenue prof cette année pendant quelques temps. On s'en fout pas, Kaouter.
On s'en fout pas du tout.
Bruno.
Je m'en fous.
Mourad.
Je m'en fous aussi.
Ok, vas-y, Kaouter.
Non, moi je m'en fous pas parce que cette nana, il faut savoir qu'avant ça, elle a quand même nos enfants entre les mains. Enfin, j'ai...
Oui,
voilà.
Pendant un mois.
Hein. Comment ?
Pendant un mois.
Pendant un mois, ils s'en sont rendus compte. Elle a fait la même chose, elle s'est passée pour un médecin avant, donc c'est un peu plus dangereux. Enfin, c'est des gens auxquels il faut s'intéresser et qu'il faut mettre hors d'état de nuire définitivement.
Bah, c'était peut-être une bonne prof.
Exactement, ou un bon médecin.
Si c'était une bonne prof ou un bon médecin, les parents s'en seraient pas rendus compte en moins de un mois, justement. Donc, non, c'est extrêmement grave que des personnes comme ça, il y a un souci de recrutement. Bon, prof, on va dire.
Il y a un besoin. Recrutement, surtout
pas. Il y a un besoin de recrutement. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Laurence Decoq, qui est prof d'histoire et qui, hier, pendant la manif à Paris, s'est installée avec ses collègues sur la place publique et on fait passer des recrutements à la volée sur le trottoir pour embaucher des professeurs parce qu'il en manque plus de 4000 encore aujourd'hui.
Elle est diagnostiquée schizophrène depuis 10 ans, hein,
ouais.
Cette femme. Donc, il y a quand même aussi un problème quand tu regardes les fichiers des gens. Sur lesquels il y a des notifications, c'est bizarre parce que normalement quand tu dois devenir prof, on doit fournir un certain nombre de
certificats. Casier vierge,
diriger une garderie. Hein. Ah, toi tu t'en fous, tu dis rien, Mourad. On continue.
Allez, Marlène Schiappa prend la tête de la toute nouvelle structure chargée d'écouter les victimes de violences sexuelles et sexistes lancée ce jeudi par Renaissance. On s'en fout. S'en fout, Bruno.
Je devrais m'en foutre, mais je m'en fous pas parce que.
Alors attends.
Mourad,
moi je m'en fous.
Eh ben, allez, vas-y Bruno. Vas-y.
Non, mais parce que je sais pas, je l'ai écouté, j'ai lu son interview dans Le Parisien.
C'est inquiétant.
Elle a aucune honte.
Ouais.
C'est-à-dire que.
Pourquoi ?
Ça se passe mal à la NUPES, ils font n'importe quoi. Les Républicains, ça se passe mal, ils font n'importe quoi. Mais nous, par contre, à Renaissance, anciennement LREM, on fait ça bien. Abad, Darmanin, il y en a eu quand même quelques cas chez eux où ils ont maintenu. Il a fallu quand même une vraie pression populaire et des médias pour qu'elle sorte. Donc à un moment donné, il faut qu'elle arrête, je sais pas, c'est toujours mieux chez les autres. Et moi, j'ai quand même entendu cette semaine. Le ministre de la Justice dire que toutes ces cellules-là, c'était n'importe quoi, qu'elles se substituent à la justice et qu'il fallait pas en faire, fallait laisser la justice travailler. Ce qui est vrai.
Oui, c'est vrai que c'est en contradiction avec les propos du garde des Sceaux.
Ils sont pas dans le même gouvernement, tous les deux, là?
Si, tout à fait.
Ah, ok, bon, bah.
On continue, Louis.
Du grand Schiappa.
Allez, on va parler football maintenant. Ah, Bruno qui fait une tête.
Neymar,
Neymar qui soutient Bolsonaro pour les élections présidentielles au Brésil. Sur RMC Story, vous allez pouvoir voir l'image. On le voit danser sur une musique à la gloire de Bolsonaro et qui invite à voter pour lui.
Le vote, c'est à partir de...
Et c'est dans trois jours. Est-ce qu'on s'en fout ou on s'en fout pas, Kauter?
J'aurais tendance à dire je m'en fous, mais c'est un gars qui est hyper regardé.
Oui ou non?
Tu t'en fous pas.
Allez, vas-y.
Je m'en fous pas.
Ah, et Bruno?
Tu joues pas ta vie, Kauter, non plus. Hein,
non, mais
Bruno.
Ça m'énerve. Moi,
je m'en fous pas.
Bruno, globalement, tu t'en fous de pas mal de trucs aujourd'hui, non?
Ouais, mais là, je vais pas m'en foutre parce que.
Attends, je m'en fous pas.
Mourad.
Je m'en fous pas.
Okay. Ah, tiens, mais Mourad.
Bah, j'ai l'impression que, alors, quand on connaît les propos de Bolsonaro et les idées sur les blacks, sur les gays, sur les femmes.
L'écologie.
On a l'impression que Neymar, s'il était aux États-Unis, il soutiendrait le Ku Klux Klan, quoi.
Ouais, c'est un peu ça.
C'est aberrant qu'il puisse. Alors, autant, je ne dis pas que Lula, c'est un saint, bien sûr, de là, mais Bolsonaro, ça me paraît quand même ce qu'il y a de pire en matière de politique aujourd'hui, qu'on a vu notamment sa politique aussi pendant le Covid, le nombre de morts dont il est responsable, ce mec. Je veux dire, c'est l'extrême droite de l'extrême droite. Comment dans un pays comme le Brésil, avec la pauvreté que ça engendrait, alors c'est sûr que quand on doit 34 millions d'euros au fisc, comme il les devait il y a quelques années au fisc espagnol, on est peut-être moins sensible à la pauvreté, mais voilà, je vous répète, c'est comment est-ce qu'on peut soutenir Bolsonaro? Voilà. Après, footballeur, c'est un métier manuel, donc...
Ouais, c'est ça.
Pédestre, plutôt.
J'ai rien contre les métiers manuels, attention, absolument pas. Mais bon, c'était juste
le rugbyman.
C'était une simple vanne, voilà.
Ouais. Dans l'absolu, il a le droit de soutenir qui il veut, tu vois. Mais sauf que c'est un gars qui est hyper suivi sur les réseaux sociaux et pas que, et qui soutient un gars qui est hyper dangereux, qui mène une politique à tous les niveaux qui est complètement désastreuse. C'est un gars, Bolsonaro, c'est un gars qu'il faudrait mettre dans une...
Comment
dans
une,
quand tu l'appelles
Borsalino. Non, mais c'est des gens qu'il faut jeter dans des geôles et il faut jeter la clé, tu vois. C'est des gens qui sont dangereux et qu'un gars comme lui, qui est aussi suivi au niveau mondial, notamment par les jeunes, soutienne un fou furieux qui est aussi dangereux, c'est inquiétant.
Bruno?
Mais après,
toi, fan du PSG.
Ouais, mais pas forcément fan du PSG actuel d'ailleurs. Mais le sujet, c'est que
Celui qui perdait.
Normalement, tu soutiens qui tu veux, et là-dessus, on devrait même pas en parler. Le vrai problème, c'est comme vient de dire Kauter, c'est qu'il est suivi, et que comme l'a dit Mourad tout à l'heure, c'est quand même le veau qui suit son boucher, hein, parce qu'à un moment donné, ils me font. Mais le souci avec Neymar.
Il risque pas grand-chose avec Bolsonaro, Neymar. Hein.
Pour l'instant, non. Mais un jour, peut-être.
Les gens qui ont sa couleur, les gens qui sont gays, les gens qui sont.
Ouais, mais l'argent, ça blanchit, hein, donc.
Ouais, ça c'est vrai. On est d'accord.
Merci monsieur Louis Gerbier. Merci. À suivre dans un instant avec les GG, avec les grandes gueules. On va s'intéresser à ce qui s'est passé à Marseille et qu'on a vu dans d'autres villes de France. C'est-à-dire dans les quartiers nord, le docteur Wichou, médecin, ferme le cabinet. Il a été agressé à plusieurs reprises. Il n'y a jamais eu de suite, dit-il. Le quartier s'est dégradé. Je ne peux plus exercer. Et il le regrette. Il le regrette parce que la population, la population n'a plus de médecin.
Il sera avec nous. Il va nous raconter cette dernière agression, celle de trop, qui l'a poussé à fermer.
Le docteur Michou sera avec nous. Comment davantage protéger les médecins dans ces quartiers compliqués, ces quartiers difficiles, 32-16, pour en parler avec les grandes gueules.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.